Théologie fondamentale, père Philippe, 4 novembre 1982, Rimont.
Pour foi et raison, c'est ce qu'on appelle ordinairement la théologie fondamentale. Donc on est en théologie, je vous dis bien ça. Il faut bien changer les vitesses, hein, parce que autrement, on écrase les pauvres gens. Donc il faut bien savoir qu'on est en théologie. On est en théologie et on essaie, dans un regard critique, réflexif, de comprendre les liens qui peuvent exister entre la foi d'une part et l'intelligence d'autre part. Donc ce cours présuppose que vous savez ce que c'est que la foi et ce que vous savez ce que c'est que l'intelligence. Si vous ne savez pas ce que c'est que la foi et l'intelligence, vous avez deux vices que vous ne connaissez pas et qui sont là et vous demandez quels sont les rapports entre les deux. Je dis ça parce que je sais très bien que beaucoup d'entre vous, forcément, ne savent pas théologiquement ce que c'est que la foi et le point de vue de l'intelligence ou la raison, j'aime mieux mettre l'intelligence, il faut savoir ce que c'est que l'intelligence. L'intelligence, on sait progressivement ce que c'est que l'intelligence dans la mesure où notre philosophie progresse. Toute la philosophie nous donne une intelligence de l'intelligence. C'est propre de la philosophie, nous donner une intelligence de l'intelligence. On a conscience qu'il y a en nous quelque chose qui est capable de connaître et d'aimer. C'est donc, on creuse ça. Et alors, la foi, au contraire, il y a un gros problème, elle vient d'en haut. Alors, la philosophie ne nous dit rien du tout de la foi. Rien du tout. Il y a un abîme entre les deux. L'intelligence et lumière, et la foi et lumière. Je veux dire les deux. C'est intéressant, vous voyez. Parce que là, on comprend bien le problème de l'analogie. L'intelligence est lumière. Os, elle est comme la lumière, dit Aristote. Os, faux. Elle est comme la lumière. C'est très beau. Il dit ça de l'intellect agent. Donc, puisque l'intellect agent fait partie de l'intelligence, elle est comme la lumière. Et puis, la foi, elle est lumière. Mais la foi indique aussi une obscurité. Et l'intelligence indique aussi des confusions, des obscurités. Il y a des analogies, des choses analogues entre la foi et l'intelligence. Alors, comprenez que le cours que nous allons faire, hein, on le dit ordinairement que c'est un cours d'introduction à la théologie. C'est vrai, c'est un cours d'introduction à la théologie. C'est sûr, c'est un cours d'introduction à la théologie. Mais pour que ce cours soit parfaitement intelligible, il faudrait au contraire que ce soit le cours au terme de la théologie. Alors, je dis ça pour que vous ayez la loyauté quand il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous les notez. Hein? Vous les notez, puis vous me les donnez après. On fera des cours de questions et de réponses, que voulez-vous. Parce que c'est important, le cours fondamental. C'est très important, ce cours. C'est un cours de réflexion sur la foi, le principe de l'intelligence. La réflexion sur la foi présuppose donc une idéologie. C'est vrai, chaque théologie a sa conception de la foi. Il ne faut pas être autrement. Chaque théologie a sa conception de la foi. Et chaque théologie a sa conception de la foi à cause de quoi? Parce que la théologie implique la philosophie. Vous voyez, il mélange. C'est presque le serpent qui mord sa queue. Parce que je dis, la foi regarde et la philosophie et l'intelligence. Et je viens de dire que la conception de la foi provient de la théologie, et cette théologie provient de la philosophie. Alors, on a donc l'intelligence qui est présente, conception de la foi, et l'intelligence est présente en elle-même. Alors, au fond, c'est l'intelligence qui est des deux côtés. Alors, il y aurait impossibilité de faire quelque chose. Donc, il faudrait revenir à la philosophie. Eh bien, non. Il faut comprendre que la foi a par elle-même et en elle-même sa propre lumière. Et que la théologie essaie d'expliciter ce que c'est que la foi. Et nous aurons l'occasion d'expliciter ce que c'est que la foi. On va toucher des problèmes très très brûlants. Si on avait le temps, on pourrait prendre, par exemple, Kuhn, Hans Kuhn, hein, un bel exemple. C'est ici de comprendre la conception qu'il a de la philosophie, la conception qu'il a de la théologie. Est-ce que, non seulement c'est traditionnel, mais est-ce que c'est légitime? On doit se poser la question. On doit se poser la question, vous voyez, dans ces rapports entre la foi et l'intelligence, on doit se poser la question de savoir si n'importe quelle intelligence, c'est-à-dire n'importe quelle philosophie, peut s'allier à la foi. Ça, c'est une des très graves questions et très importantes de la théologie fondamentale. Si un théologien fait de la théologie, il doit savoir que la foi ne peut pas s'allier n'importe quelle philosophie. La foi est lumière et les vérités. La foi est lumière et la vérité. Pourquoi ? Parce que la foi est liée à la parole de Dieu, et la parole divine est vérité et lumière. C'est dit textuellement dans l'Écriture. Donc la foi est lumière et vérité. Si je prends une philosophie qui me donne une conception dialectique de l'intelligence, est-ce que je peux allier une dialectique à la parole de Dieu? Grave question, je pose ça comme introduction, je pense que ce n'est pas la solution, simplement pour vous montrer l'intérêt du problème que nous voyons et que c'est le problème le plus actuel qui soit. C'est évident, c'est le problème le plus actuel qui soit. C'est le problème de savoir si j'ai le droit de mettre comme attelage le bœuf et l'âne. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on n'aime pas beaucoup ce genre d'attelage. Alors, ça fait une signification symbolique, comme dirait le père de l'Église. Hein. C'est qu'on n'a pas le droit d'atteler, de fait, la foi qui me donne la vérité, avec une intelligence dialectique qui ne recherche plus la vérité, qui a des moments de sincérité, qui est dans l'ordre du devenir, alors que la foi me fait toucher la vérité, elle me fait toucher quelque chose d'ultime. C'est ces problèmes-là qu'il faut essayer de comprendre. Mais il faut bien saisir que la foi a en elle-même sa propre conscience de foi. Et une théologie va respecter la foi et ne va pas expliquer la foi. La foi est un mystère. Alors, si la foi est un mystère, donc la théologie ne donne pas une compréhension de la foi. De sorte que ce n'est pas du tout le serpent qui mord sa queue, c'est tout simplement comprendre que la foi a un absolu, elle est mystérieuse, elle me fait adhérer à la vérité, à la lumière. Et puis l'intelligence, elle a aussi son absolu, l'intelligence a un certain absolu, et il faut comprendre dans quelle mesure ces deux absolus peuvent se lier. Et dans quelle mesure il peut y avoir vraiment une espèce d'alchimie mystérieuse entre le point de vue de la foi et de l'intelligence. Et comment il peut y avoir aussi des confusions totales entre le point de vue de l'intelligence et la foi. Alors voyez, il y a plusieurs problèmes et plusieurs manières de regarder ce problème. On peut le regarder, il y a un livre du père Garrigou Lagrange, pour ceux qui ont beaucoup de courage, qui est un peu vieux maintenant, mais qui est intéressant parce que c'est du père Garrigou Lagrange. Il est en latin, ça facilite la lecture, parce que et alors le père dit dérévélationné du père Garrigou Lagrange. Et le père Garrigou Lagrange considérait que celui du dérévélationné, c'était quelque chose d'absolument fondamental. Le père Garrigou se trouvait au moment du modernisme. Il ne faut pas oublier que le père Garrigou, au moment du modernisme, a joué à Rome un rôle très très important. C'était le grand théologien. Il ne faut pas dire, tu vois, le grand théologien. Il avait des limites comme tout théologien, mais il avait quand même aussi certaines dimensions, le bon père Garrigou Lagrange. Alors, c'est quand même quelque chose qui était intéressant à regarder. Alors, vous pourrez regarder le dérévélationné du père Garrigou Lagrange. Vous verrez là ce que représente. Je ne vais pas faire du tout. J'avais évité, en le dérévélationné, vous l'aurez traduit, et donc vous avez empêché de, comme ça de lire, vous avez donné la possibilité de le lire plus facilement, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas faire ça. Je vais plutôt avec vous traiter quelques questions des rapports entre le point de vue de la foi et de l'intelligence. Quelques questions. Et alors, si de votre côté, il y a des questions qui vous intéressent et que je peux traiter, vous me le direz. Sur un petit papier en disant « j'aimerais bien un cours là-dessus ». Parce que c'est pour vous que je le fais, vous voyez. Alors, je vais faire d'abord avec vous, parce que je crois que de toute façon, c'est une question importante à voir. Voir la première question de la somme théologique de Saint-Thomas. Qu'est-ce que c'est la théologie? Bien, vous verrez, si on le fait avec ce souci-là, vous verrez que cette question va nous mettre tout le temps en rapport entre le point de vue, toujours en face, du rapport de la foi et de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que la théologie? C'est de voir qu'il y a possibilité d'une coopération de l'intelligence et de la foi. C'est énorme, ça. Il y a une coopération possible. Parce que je pourrais dire qu'il n'y a aucune coopération entre les deux. Position de Karl Barth. Car Barth dit ouvertement aucune coopération. L'intelligence n'a rien à faire avec la foi. Vouloir faire une coopération entre la foi et l'intelligence, c'est ternir la foi, c'est abîmer la foi, et c'est éteindre l'intelligence. Alors c'est pas la peine. Pour certains, Saint Thomas est un homme dangereux. C'est évident, pour certains, Saint Thomas non seulement est un homme dangereux, mais un homme qui a fait beaucoup de mal. Ça se dit. Dans le milieu, je ne pratique pas. Mais bon, ça se dit. Alors à ce moment-là, quand vous êtes en face de ces gens-là, vous leur dites, est-ce que vous connaissez Saint Thomas? Évidemment, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Non, mais il faut donc essayer de comprendre. Cette audace, alors je dis, c'est très vrai, Saint Thomas est un homme extraordinairement audacieux. Ça, c'est très vrai. C'est un homme extraordinairement audacieux. C'est intéressant quand même d'avoir un homme audacieux en face de nous. C'est plutôt que d'avoir un petit bourgeois, une vague qui a toujours peur. Tandis que là, il y a une audace extraordinaire, une audace prodigieuse. C'est sûrement le théologien qui a été le plus audacieux. Audacieux dans le sens où il fait confiance à l'intelligence. C'est ça être audacieux. Et c'est ça qui est grand dans un domaine. C'est de voir que la théologie n'étouffe pas l'intelligence, mais que la théologie va permettre à l'intelligence d'aller jusqu'au bout de ses exigences et en même temps de permettre, non pas du tout d'expliquer le mystère, mais d'expliciter certains aspects du mystère. Alors, vous voyez, c'est une position, hein, celle de Saint Thomas. Première position, il y a une coopération possible. Puisque la théologie, pour Saint Thomas, existe, et Saint Thomas veut une théologie scientifique. Et qui dit théologie scientifique, nous fait comprendre comment l'intelligence intervient d'une manière telle que la théologie est scientifique. C'est extraordinaire, ça. Parce que la foi n'est pas du tout scientifique. Hein. C'est l'intelligence qui peut être scientifique. Et donc, parler d'une théologie scientifique, c'est extrêmement audacieux. Saint Thomas est le premier à dire ça. Saint Thomas ne dit pas théologie spéculative et pratique, comme vous dites après, théologie scientifique. Très important de comprendre ça. Parce que dire spéculative et théologique, ça n'a rien à voir avec le point de vue théologique. La théologie est toujours spéculative et toujours pratique. Donc, c'est une vision qui n'a rien à voir. Mais c'est une théologie scientifique. Donc, une coopération possible entre l'intelligence et la foi. Non seulement une coopération possible, mais une coopération qui va jusqu'à dire qu'il y a une théologie scientifique. Position diamétralement opposée à celle-là. La position de Karl Barth. Très intéressant. Et Karl Barth ici. Oui. Position diamétralement opposée. Alors, pour Karl Barth, je vous résume. Karl Barth, il ne peut pas y avoir de théologie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de coopération de l'intelligence et de la foi, puisque, à cause du péché, l'intelligence est corrompue. Seule la foi est pure. Donc, l'intelligence n'est plus lumière, la raison et l'intelligence ne sont plus lumière, ils sont au contraire source d'erreur. Donc, la foi doit demeurer toute pure. La théologie, qui a fait une dogmatique, hein, Karl Barth dit qu'il n'y a pas de théologie, puis il en fait une dogmatique qui est longue, hein, regardez. Bon, alors, il a besoin de justifier son point de vue. Non, mais c'est pour purifier la foi, d'une certaine manière. C'est-à-dire pour montrer la pureté de la foi, la dogmatique de Karl Barth. C'est ça qui est très curieux. Alors, vous voyez, le vice, l'intelligence, elle est corrompue. On ne peut pas purifier la foi. Vous purifiez un vase avec un linge corrompu? Non. Donc, pour la seule position logique de Karl Barth, ce serait le silence. C'est le silence. Si mon intelligence est corrompue, je ne peux même plus parler. Parce que la parole provient de l'intelligence. Je ne peux même plus parler, donc je devrais garder le silence. C'est une position mystique, et cette position mystique peut avoir un très grand intérêt. Mais alors, il faut se taire. Il ne faut pas écrire. Parce que la parole, du fait même que je dis que mon intelligence est corrompue, la parole, tu ne peux plus. Il n'y a que la parole de Dieu qui n'est pas corrompue. Parce que la parole de Dieu, alors elle vient d'en haut, et elle est reçue par la foi. Alors, j'ai plus de théologie, c'était tout simplement de dire, il y a la parole de Dieu, je respecte la parole de Dieu, et je ne dis que la parole de Dieu. Donc, on ne peut que chanter les psaumes, on ne peut que réciter, lire la parole de Dieu, et puis c'est tout. Pas de commentaire. Parce que tout commentaire qui viendrait s'ajouter, ce serait le linge sale qui viendrait corrompre la parole de Dieu. Alors, au fond, il n'y a plus que le silence. C'est une position, celle-là. Et elle peut exister, mais au fond, c'est ça qui est très curieux. Vous savez, c'est quand vous chassez l'intelligence, elle revient au galop. C'est très net, hein. C'est qu'au fond, quand on dit que l'intelligence est corrompue, qu'elle ne peut pas coopérer à la foi, on fait quand même une dogmatique. On fait quand même une dogmatique. Alors, à ce moment-là, il y a un illogisme complet. Et pour connaître, il y a un illogisme. Parce que quand Karl Barth dit que l'intelligence est faussée, c'est pas vrai. Donc, ce qu'il dit peut être intelligent. Autrement, c'est dit. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on a dit en s'amusant avec Hans Kuhn, n'est-ce pas? Hans Kuhn ne peut pas devenir pape parce qu'il perdrait son infaillibilité. Alors, on voit bien, c'est exactement la même chose, vous savez. C'est pouvoir prétendre que la parole est corrompue, alors à ce moment-là, il faut se taire. Et cependant, il dit des choses intelligentes. Donc, il montre que la parole n'est pas corrompue. Il montre que l'intelligence n'est pas corrompue. Il montre qu'il y a quelque chose qui demeure de vrai. Que mon intelligence soit mêlée à l'erreur, c'est bien évident, mais mon intelligence garde encore la possibilité d'atteindre la vérité. Bien que mon intelligence à cause de ma paresse. Et lié à des erreurs. S'il n'y avait pas la paresse, je serais plus intelligent. Nous tous, hein, si on avait été moins paresseux, on serait plus intelligent. Donc, on voit très bien le poids du péché originel. Le poids du péché originel. Et plus on a de facilité, plus on favorise la paresse. Et donc, plus le poids du péché originel apparaît. Alors, au fond, c'est deux positions extrêmes, hein, Karl Barth et saint Thomas. C'est deux positions extrêmes. Là, la position de Karl Barth qui vient, je prends Karl Barth parce que c'est un de ceux qui sont les plus significatifs là-dessus. Vous savez ce que dit Karl Barth à propos de saint Thomas et à propos de l'analogie. Il dit l'analogie, c'est le diable. L'analogie, lumière, lumière. Hein? La foi est lumière, mon intelligence est lumière. C'est l'analogie, ça. La lumière prend deux significations différentes et totalement différentes. Et alors, pour Karl Barth, c'est le diable. La conséquence, c'est pas étonnant. Parce que si mon intelligence est faussée, voyez, et que je fais un parallélisme entre le point de vue de ce qui vient de l'intelligence et de ce qui vient de la foi, je suis dans l'erreur. Mais alors, il faut bien comprendre que, ça nous aurons l'occasion de le voir, que l'analogie telle que Karl Barth l'a compris, c'est pas du tout l'analogie de saint Thomas. C'est une analogie telle qu'il la comprend. Pour lui, l'analogie, c'est premièrement une similitude. Alors que pour saint Thomas, c'est premièrement la diversité. Alors, nous verrons d'abord, si vous voulez, pour que nous sachions bien où nous allons d'abord regarder ce que saint Thomas nous dit, la coopération de l'intelligence, de la foi de l'intelligence, la théologie. Puis ensuite, si nous avons le temps, nous regarderons le point de vue de la foi d'inspiration. Ça, c'est des problèmes qui sont très actuels et qui sont très importants. Alors, je prends tout de suite dans saint Thomas, puisque je crois que le mieux, c'est de commenter saint Thomas. C'est de commenter saint Thomas pour que nous entrions dedans et puis avoir une base solide. À partir de là, on peut alors exploiter dans différents sens. Ceux qui veulent peuvent regarder le livre du Père Chenu. Ça les aidera, ça les stimulera, parce que le Père Chenu stimule toujours. Le Père Chenu était palpitant dans ses cours. J'ai suivi le cours du Père Chenu sur l'introduction de saint Thomas, sur la manière dont saint Thomas concevait la théologie. Donc, je l'ai eu comme professeur, hein, je le connais très bien. Et comme il s'appelait Marie-Dominique et moi-même Marie-Dominique, nous étions très unis. Et nous aimions beaucoup, et ça continue. On sait chaque fois qu'on se voit qu'on a deux positions diamétralement opposées, mais on se respecte. Vous voyez, on se respecte parce que c'est il y a des positions différentes que je n'accepte pas, c'est bien évident. Il y a longtemps, parce que même quand j'étais étudiant, je n'acceptais pas. Je disais parce que j'étais loyal et puis que je pouvais le dire. Et que Père Chenu aime bien ça, il aime bien qu'on pousse comme ça jusqu'au bout. Alors il aime beaucoup ça, mais il a une perspective qui est tout à fait différente. Et cependant, à la fin de mes études, il m'avait dit, il faut que vous restiez au seul soir pour enseigner le dogme. Alors j'ai regardé, j'ai dit oui, parce que si vous n'enseignez pas le dogme, moi je n'existe plus. Vous comprenez très bien. S'il n'y a plus le dogme, on ne peut pas être pour relativiser le dogme. Il n'y a plus rien à relativiser, donc on n'existe pas. Alors je dis, ah bon, vous reposez sur moi. Et c'est très vrai, c'est très intéressant de voir ça, parce qu'on comprend là, à ce moment-là, ce que représente le point de vue de la perspective de saint Thomas, et puis une perspective d'historien. Vous voyez ? La perspective d'historien est à un niveau du devenir, à un niveau d'histoire, mais elle n'atteint pas le dogme, c'est toujours les rapports entre le devenir et l'être. Toujours le même rapport entre le devenir et l'être, hein, profondément. Le devenir suppose l'être et l'être ne suppose pas le devenir. Alors c'est le gros problème d'aujourd'hui, si on a le temps, si j'ai le temps de travailler un peu, au terme on verra ce que c'est que l'herméneutique. Parce que c'est quand même très important de voir ce que c'est que l'herméneutique aujourd'hui. Et de comprendre ce que c'est que l'herméneutique. Parce que c'est toujours les mêmes rapports entre les rapports du devenir et l'être. Et c'est des problèmes qui sont des problèmes actuels. Vous voyez, la théologie fondamentale aujourd'hui pourrait, et se définit de temps en temps, je me souviens dans les discussions du conseil de théologie à Fribourg, ça se définissait toujours l'herméneutique. Et le professeur de théologie fondamentale disait, au fond, je voudrais changer mon cours de théologie fondamentale en un cours sur l'herméneutique. Parce que c'est vrai, on touche tout de suite ce problème de l'interprétation, de la signification des mots. Je crois que c'est pas juste. Je crois que l'herméneutique est un petit problème de la théologie fondamentale, mais ce n'est pas le problème de la théologie fondamentale. Parce que l'herméneutique n'explique pas la foi. Comme l'herméneutique n'explique pas la philosophie. L'herméneutique est au niveau du langage. Est au niveau de la signification du langage. Tandis qu'au contraire, la foi est au niveau du mystère. Et la philosophie est au niveau de la pensée. Alors vous voyez tout de suite la différence qui existe entre les deux. Mais qu'en théologie fondamentale, il y a un problème d'herméneutique, tout à fait d'accord. Il y a un problème d'herméneutique.
Parce que c'est le problème d'aujourd'hui. Est-ce qu'on doit faire une herméneutique parallèle à tous les traités de dogmatique, à tous les traités de théologie? Alors, je commence. Il appartient au docteur catholique non seulement d'enseigner les plus avancés, mais aussi d'instruire les commençants. Et pour vous mettre tous à l'aise. Donc, des plus avancés, il y en a parmi vous qui sont les plus avancés, et puis « adeum etiam pertinet incipientes », si vous direz. Ça, c'est la miséricorde de saint Thomas. Mais aussi d'instruire les commençants, selon ces mots de l'apôtre, « comme à de petits enfants dans le Christ, c'est du lait que je vais vous donner à boire, non de la nourriture solide. » Très joli. La somme, c'est du lait. Notre intention est donc, dans cet ouvrage, d'exposer ce qui concerne la religion chrétienne de la façon la plus convenable à la formation des débutants. Pour les débutants, que saint Thomas donne la somme. Et pour les débutants, heureusement que saint Thomas nous le dit. Hein. Nous avons observé, en effet, que dans l'emploi des écrits des différents auteurs, les novices en cette matière sont fort empêchés, soit par la multiplication des questions inutiles, des articles d'épreuves, soit parce que ce qu'il leur convient d'apprendre n'est pas traité selon l'ordre même de la discipline. Alors, c'est très important de voir que saint Thomas veut donner un ordre de discipline. Secundum ordinem disciplinae. Alors, disciplinae, comprenons bien, c'est technique, hein. C'est un ordre d'enseignement. Un ordre d'enseignement pour que ceux qui reçoivent cet ordre d'enseignement savent très bien ce qui est présupposé. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai tout de suite dit que ce cours présupposait la connaissance de la foi et la connaissance de l'intelligence. Et puis nous essayons de comprendre les rapports entre les deux. Y a-t-il possibilité d'une coopération? Y a-t-il opposition? Y a-t-il diversité totale? Oui. Trois grandes positions. J'en ai dit deux, je pourrais poser la troisième. Et la troisième serait de ceux qui diraient que l'intelligence est toujours en opposition vis-à-vis de la foi. Et donc, il y a la possibilité d'une coopération. Donc, c'est un ordre de discipline que saint Thomas veut nous donner. Un ordre de discipline, c'est-à-dire un ordre logique, un ordre qui respecte que ce qui est donné en second lieu, que ce qui est donné en second lieu, justement, présuppose ce qui a été donné avant et qu'on donne toujours ce qui est avant pour comprendre ce qui vient ensuite. Soit enfin que la répétition fréquente des mêmes choses engendre dans l'esprit des auditeurs lassitude et confusion. Vous voyez, il y a plein de miséricorde, saint Thomas. Hein? C'est comme ça au début de la somme. Désirant éviter ces inconvénients et d'autres semblables, nous tenterons, tentadimus, nous tenterons, confiant dans le secours divin, de présenter la doctrine sacrée brièvement et clairement, autant que le permettra la matière. Saint Thomas dit ça, heureusement. Hein? Donc quand c'est pas bref et quand c'est pas clair, c'est à cause de la matière. Autant que le permettra la matière. La matière qu'on va traiter. La matière qu'on traite, c'est le mystère. Donc ça reste toujours obscur. Pour nous. Ça reste toujours obscur. Il y a toujours une obscurité dans la matière. Alors, saint Thomas commence la somme, et on comprend très bien, c'est tout à fait normal, c'est un ordre de discipline, de la doctrine sacrée, qu'est-elle, à quoi s'étend-elle? Qu'est-ce qu'elle est? Qualis sit. Quelle elle est? Quelle elle est? C'est l'aspect qualitatif. Qualis sit, c'est pas tout à fait quelle elle est. Parce que quelle elle est, c'est justement l'aspect ce qu'elle est. Ce serait le cuir. Or c'est le qualis. Le qualis, c'est la qualité. Et on comprend très bien, parce que je ne peux pas comprendre parfaitement ce qu'est la théologie. La théologie contient en elle-même un mystère, le mystère de la foi. Donc, je ne peux pas dire « quid sit » de la théologie, mais je dis « quali sit ». Mais c'est des petites précisions qui sont très importantes à comprendre. Parce que si vous cherchez à avoir une compréhension parfaite de la théologie, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, vous supprimez le mystère. Et donc la théologie ne repose plus sur la foi. Or, la théologie implique la foi. La théologie, pour permettre que je comprenne mieux ce que c'est que la foi. Alors, par le fait même, la théologie implique un mystère. Si la théologie implique un mystère, eh bien, il y a nécessairement une obscurité inhérente à la théologie. Ceci, c'est capital, parce que c'est ce qu'on n'accepte plus toujours aujourd'hui. On n'accepte plus que la théologie implique un mystère. Le mystère de la foi. On voudrait faire de la théologie comme pour toutes les autres sciences. Or, les autres sciences n'impliquent pas un mystère. Donc, elles peuvent être absolument limpides. Tandis que la théologie, on peut dire seulement le qualusit. Et alors, vers ce qu'elle s'étend. En vue de délimiter exactement le champ de nos recherches, ou les limites, nous devons d'abord traiter de la doctrine sacrée elle-même. Alors ça, c'est aussi un terme tout à fait particulier chez saint Thomas, hein, la sacra doctrina. C'est intéressant de dire la sacra doctrina. Oui, la sacra doctrina, c'est le terme traditionnel. C'est plus vaste que théologie, la sacra doctrina. Et cependant, comme nous le verrons, la théologie fait partie de la sacra doctrina. Donc nous devons d'abord traiter de la doctrine sacrée elle-même, nous demandant quali sit, quelle elle est, et vers quoi, vers quelle réalité elle s'étend. À ce sujet, 10 questions se posent. Alors oui, on va bien découper la question. Alors ça, c'est l'art de Saint-Thomas, penser au vitraux de chat. Quand on lit la somme, il faut toujours penser au vitraux de Chartres, et non pas à Chagall. C'est vraiment les vitraux de Chartres. C'est une analyse extrêmement précise des vitraux de Chartres. Oui, parce qu'on pourrait faire une théologie à Chagall, vous voyez, ce serait les vitraux de Chagall, c'est très beau, mais c'est pas les vitraux de Chartres, c'est autre chose. Alors, il faut toujours s'attarder au prologue, hein, quand on lit dans Saint-Thomas. Il faut voir la manière dont on découpe le poulet. Vous savez, aujourd'hui, on a des machines, on coupe comme ça. Tandis qu'avant, on découpe le poulet de façon astucieuse. Hein. On découpe organiquement. C'est pas la même chose. Parce que le couper dialectiquement, c'est le couper avec une façon spéciale. On divise, c'est tout. On divise d'une façon quantitative. Hein. Autant que possible que tous les morceaux aient le même poids. Mais d'un côté, il y a beaucoup d'eau, c'est peu de viande. De l'autre côté, vous dites, ça n'a pas d'importance, ils ont tous le même poids. Coupez dedans. Tandis que si vous coupez organiquement, vous essayez de saisir les nervures. Et c'est pour ça que c'est très intéressant une question dans Saint-Thomas, parce que c'est de saisir les nerveux. C'est d'apprendre à diviser. C'est pas comme ça de diviser. Vous voyez, on divise quelque chose qui est intéressant, la sacra doctrina. Il faut diviser, il faut savoir qualifier. Voilà la grande question. La qualité de la sacra doctrina. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de saisir la qualité? Quel est le premier plan qu'on va prendre? Une telle doctrine est-elle nécessaire? Ah, c'est curieux. Premier point, vous voyez, alors, s'il faudrait comprendre pourquoi, quand il s'agit de la doctrina sacra, on regarde la nécessité. Si je mettais ici mathématiques, je pourrais vous poser la question, quali sit mathématiques, hein? Qu'est-ce que c'est que les mathématiques? Est-ce que je mettrais la nécessité en premier lieu? Je peux mettre aussi métaphysique. Est-ce que je mettrais en premier lieu la nécessité? Très intéressant, ça. Pour réfléchir, pourquoi, première question, de la nécessité de cette doctrine. La nécessité de cette doctrine. On verra mieux une fois qu'on aura compris, hein, sérieux. Hein. Mais ici, je regarde pour
Mais veillez, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Je commence par la nécessité de la doctrine. Deuxièmement, est-elle une science? Ah, voilà, ça c'est la grande découverte de saint Thomas. Est-elle une science? Est-ce que la doctrine intégrale est une science? Est-elle une ou multiple? Bon, la science peut être une, l'un ou le multiple. L'article 3. Vous voyez, l'un et le multiple est une propriété, ça vient après. C'est normal, hein? J'essaie de comprendre. La nécessité, c'est par rapport à l'homme. À l'homme dans sa finalité. Et une fois que j'ai compris que cette science était nécessaire, j'essaie de comprendre ce qu'elle est. Elle est science. Une ou multiple. Est-elle spéculative ou pratique? Alors, maintenant, spéculative. Une fois que je vois qu'elle est une, spéculative, pratique. Une sous-division, hein? Article 4. Est-elle spéculative ou non? De la comparaison de cette science avec les autres. Ah, alors maintenant, je vais revenir, une fois que j'ai précisé, elle est une. Elle est premièrement spéculative, mais elle est aussi pratique. Elle est éminemment spéculative, mais elle est aussi pratique. Donc c'est une science très particulière. Elle est au-delà des divisions des autres sciences. La distinction spéculative et pratique, c'est intéressant, la distinction spéculative et pratique, c'est propre à Aristote. Je vous l'ai dit, Aristote est le premier qui distingue le pratique du spéculatif. Le marxisme ne distingue plus. Le théologien est au-delà de la distinction. Mais il respecte, mais il est au-delà. Vous voyez comment la dialectique peut naître d'une théologie qui se désacralise. Alors on est au-delà de la distinction du spéculatif et du pratique. Et on veut de manière au-delà. Mais ça c'est vrai de la foi ou c'est pas vrai de l'intelligence humaine? Mon intelligence humaine, elle est ou pratique ou spéculative. C'est impossible autrement. Et la dialectique voudrait être au-delà. Alors, cinquième question, je regarde cette science comparativement aux autres sciences. On comprend très bien. Je louche, vous voyez là, sur les autres sciences. Je louche sur les autres sciences pour savoir. La comparaison avec les autres sciences. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable dans cette science, comparativement aux autres sciences? Ah, elle a une certitude. Ça fait plaisir à Descartes. Elle a une certitude unique. C'est la plus grande. Vous voyez encore la laïcisation de la théologie. La certitude. C'est tout à fait normal ici. Vous comprendrez bien, je ne peux pas dire que cette science a une évidence plus grande que toutes les autres sciences, puisque justement elle repose sur la foi. Et si elle repose sur la foi, elle n'a pas l'évidence. Mais elle a une certitude plus grande que toutes les autres sciences. Et alors, une fois que j'ai fait la comparaison, je peux maintenant me poser la question, est-elle une sagesse? Alors ça, c'est aussi très important. Cette doctrine est-elle une sagesse? Alors, il faut bien comprendre la différence entre science et sagesse. Et c'est curieux, on a commencé par la science, on n'a pas commencé par la sagesse. Moi, j'aurais commencé par la sagesse, et vous aussi. Mais bon, j'aurais dit, c'est science, mais elle est sagesse. Ça m'a commencé par la science. Et puis, après, de la science, il remonte à la sagesse. Est-ce qu'elle est sagesse? Alors, une fois qu'il a découvert qu'elle est sagesse, il essaie de préciser, alors là, on va analyser, quel est son sujet? C'est 7. Quel est son sujet? Le sujet d'une science. Ça, il faut faire un peu de logique. Quel est le sujet de cette science? Quel est son sujet? On va préciser quel est son sujet. Et voyez que là, on va vers l'extension. Quel est son sujet? Après, son caractère particulier. Est-ce qu'elle est argumentative? Est-ce qu'elle a pour une argumentation? La foi est au-delà de tout raisonnement. Alors, est-ce que l'intervention de l'intelligence dans la foi va-t-il faire que cette science va impliquer des raisonnements? Est-elle argumentative? est-ce qu'elle doit se servir d'élocution métaphorique ou symbolique? Doit-elle user de métaphore ou de locution symbolique? Alors là, c'est un très gros problème. Demeure-t-elle dans le symbole? Demeure-t-elle dans la métaphore? Enfin, dixième question, les textes de l'écriture qu'elle comporte sont-ils susceptibles de plusieurs sens? Alors, on trouve la signification. La diversité des sens de l'écriture. Vous voyez que ça, c'est la dernière chose, la plus bonne dernière. Si elle se sert de la parole de Dieu, et que la parole de Dieu est divertissante, est-ce qu'elle est encore une science? Ça, c'est la critique fondamentale dernière. Hein? Est-ce qu'on peut avoir une doctrina sacra qui soit une science lorsque la parole de Dieu a diverses significations? Ça vient en dernier lieu, ça. C'est la dernière chose, la bombe dernière. Hein. Savoir est-ce qu'il y a un ordre dans ces... Alors, on va se sauver par là. Dès qu'il y a diversité, il y a un ordre. Dès qu'il y a un ordre, il y a un premier. Alors, on peut avoir une connaissance scientifique, mais il peut y avoir aussi d'autres connaissances. S'il n'y avait pas de diversité, s'il n'y avait pas d'ordre, alors on serait dans la diversité pure, on serait dans la métaphore, si vous voulez, dans le sens qu'on ne peut plus avoir une signification unique, donc il n'y aurait plus une science au sens propre. Donc voilà l'organisation, vous voyez. Bon, je vais réfléchir un instant avec vous, hein, sur cette manière dont on a bien divisé, organiquement, vraiment organique, hein, si vous êtes attentif. Vous voyez tout de suite la nécessité. La nécessité va se prendre du côté de la finalité. Puis après, vous regardez le point de vue de la structure interne. Une science, forcée, une science, c'est un objet propre, c'est une structure particulière. C'est la cause formelle. La cause formelle, qu'est-ce qu'elle est? C'est une connaissance scientifique. Cette connaissance scientifique est une multiple, mais qui la vie nous pratique. Ça, c'est normal. Hein. Une fois qu'on a une science, on va qualifier cette science. On va la comparer aux autres, et on va regarder que cette science, elle est sagesse. Cette science domine toutes les autres sciences. Elle est sagesse. Donc, une fois que j'ai précisé donc ce que c'est que la science, je reviens à l'extension. L'extension. Donc, je regarde le sujet. Je reviens à l'aspect logique, c'est pas la structure, hein, ça, l'argumentation, c'est l'aspect logique. Est-ce que de fait elle implique l'argumentation? Est-ce qu'il y a une logique en théologie? Est-ce qu'il y a une logique? Il y a une pensée qui est métaphysique, il y a une pensée qui est propre au point de vue théologique, mais il peut y avoir une méthode. Est-ce qu'il y a une méthode au niveau logique? Au niveau, il peut y avoir une méthode. Alors la méthode, regarde toujours la logique. Il ne faut jamais oublier. Puis alors ensuite, on regarde quelque chose de très important, c'est que, de fait, cette science s'appuie sur la foi, donc elle s'appuie sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est symbolique ou métaphorique? La parole de Dieu, elle a divers sens. Comment c'est-il que cette science garde son unité? Mais donc, c'est. Là, je viens vers l'aspect le plus critique. C'est l'aspect le plus moderne. Là, c'est l'aspect moderne. C'est ça qui est le plus discuté aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Ce qui est discuté, c'est de savoir que de fait, il peut y avoir une connaissance scientifique, ça nous verrons. Mais c'est là le point de vue le plus délicat. Parce que cette science s'appuie sur la foi. Si cette science s'appuie sur la foi, cette science regarde au point de vue de la parole de Dieu. Or, toute parole divine est symbolique. Alors, est-ce qu'elle n'est pas métaphorique? Si elle était métaphorique, vous comprenez qu'il n'y aurait pas de science. C'est la tentation d'aujourd'hui. La c'est une tentation d'aujourd'hui de dire il y a une théologie, mais elle est purement métaphorique. Elle n'est pas scientifique, elle est purement métaphorique. Je me souviens, dans ce petit congrès avec les théologiens et les savants, c'était au fond vers quoi tous ces théologiens aboutissaient en disant la théologie, elle est métaphorique. Elle est symbolique et métaphorique. Voilà, elle n'est plus scientifique. C'est là le point très délicat. Point de vue très délicat. Le second point très délicat, c'est la diversité des sens de la parole de Dieu. Ces deux articles, vous voyez, sont le fondement du fondement. Ça, c'est tout à fait le fondement du fondement. C'est là où, de fait, la difficulté est la plus grande. Comprendre comment une théologie qui s'appuie sur la foi et sur la parole de Dieu peut, étant donné que cette parole est symbolique et métaphorique, que cette parole est défendue diverse, peut maintenir son caractère scientifique. Mais il fallait d'abord l'affirmer, vous voyez, c'est très curieux comme procédé. Il fallait d'abord essayer de comprendre ce qu'elle est, qualis, qualifié, ce qu'elle est, sa qualité, pour ensuite montrer en face d'objections possibles. Les notions qui ont toujours un peu existé, mais qui aujourd'hui reprennent une force énorme. Essayez de comprendre. Alors nous allons donc regarder maintenant l'article premier.